Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard et Mélanie Chalandon, mais aussi Marguerite Caton et Corentin Monsoy, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde par Clément Daté. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Alors cette semaine, Washington accueillait la conférence internationale des pays membres de la coalition qui lutte contre Daesh depuis 2014, 74 pays au total. Donald Trump y a fait une allocution dans laquelle il prédisait la libération imminente de l'intégralité des territoires anciennement contrôlés par les djihadistes. Alors, quel sera l'avenir de cette coalition si Daesh n'est plus une menace? Faut-il comprendre que désormais, il ne faut plus compter sur les États-Unis? Et ce désengagement préfigure-t-il d'un retour en force de Daesh? À qui profitera la politique sécuritaire de Trump? Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. Alexandra Dobscheffer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et puis directrice du think tank German Marshall Fund. Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Politologue, professeur à l'Université américaine de Paris. Avant d'évoquer toutes ces questions ensemble, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin revient du Cambodge. Bonjour Arnaud Valerin.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Journaliste pour Libération, en charge de l'Asie, vous avez réalisé d'abord un long reportage sur Sihanoukville, cette ville côtière à environ 200 km de la capitale, devenue une véritable enclave chinoise dans laquelle Pékin a énormément investi. On va en parler dans un instant, mais d'abord, vous êtes aussi rendu à Phnom Penh à l'occasion des commémorations du génocide Khmer Rouge, dont la mémoire, on va le comprendre, semble assez largement reléguée au second plan. Et on va commencer par ça. Votre reportage, Arnaud Valerin, s'ouvre sur le pont Monivong, par là même où 40 ans plus tôt, le jeune commandant Hun Sen rentré dans son pays après l'avoir fui suite aux purges de Pol Pot, le même pont utilisé par les quelques 110 000 combattants venus du Vietnam pour chasser les Khmers Rouges, racontez-vous, et quatre décennies plus tard, eh bien, le jeune commandant est devenu Premier ministre et tient le pays d'une main de fer, indéboulonnable Premier ministre, dites-vous. Autocrate, sûr de son fait et fier d'être à la tête d'un pays à la croissance arrogante de 7% et à la jeunesse conquérante. C'est ça qui permet à Arnaud Valerin aujourd'hui à Hun Sen de se maintenir au pouvoir, le développement économique, la superbe croissance.
Oui, bien sûr. Et peut-être avant ça même, c'est peut-être aussi le fait d'avoir ramené la paix. On a évidemment beaucoup de critiques à formuler à l'encontre de Hun Sen. Mais il est aussi quand même celui qui a ramené la paix en 79 d'une part, et puis surtout en 98, quand il a vraiment désarmé tous les Khmers Rouges et les a intégrés dans le processus politique et civil. Donc on peut le créditer de ça. Et les gens d'ailleurs que j'ai rencontrés le disent. Ils disent effectivement, il a ramené la paix. Mmh. Il a ramené aussi, avec cette paix, comme vous le dites, les investisseurs, l'arrivée des Chinois. Et il a favorisé ces dernières années, malgré toutes les accusations fondées de corruption, de népotisme, etc. dans son entourage, il a permis effectivement la construction d'une classe moyenne qui commence à profiter des bienfaits de la croissance.
Et c'est peut-être justement parce qu'on profite précisément que l'on ne s'intéresse plus tellement au passé et que les commémorations ne sont plus vraiment très importantes. Vous rencontrez par exemple une jeune fille, Meng Lang, qui vous dit que son quartier a énormément changé, que évidemment la vie est plus chère, que c'est plus compliqué, mais que la vie est meilleure qu'avant. Et c'est peut-être ça qui fait qu'en réalité, le génocide Khmer Rouge aujourd'hui, en tout cas pour les jeunes générations, c'est plus essentiel.
Effectivement, il est passé, il est au second plan, voire au troisième plan des discussions, des préoccupations des Cambodgiens.
Il y a aussi
des jeunes. Il y a aussi une raison démographique. C'est le pays a perdu un quart de sa population lors du génocide de Khmer Rouge. Il a perdu ensuite énormément de gens diplômés qui sont partis s'installer à l'étranger, qui ne sont pas revenus. Donc il n'y a pas eu de transmission réelle entre les anciens et les nouveaux, enfin les jeunes. Et donc on a effectivement une rupture mémorielle. Enfin, il n'y a pas eu de transmission sur ce qui s'est passé. Donc ces gens-là, effectivement, n'ont pas, les jeunes aujourd'hui n'ont pas les enseignements de leurs parents, etc.
Mais les plus anciens n'ont pas transmis aux plus jeunes, parce que les plus anciens, quand même, pour eux, c'est très important. Vous rencontrez par exemple Seré Soun, et lui, il vous dit que c'est très important. Il vous donne évidemment quelques témoignages, quelques souvenirs qu'il a de cette période-là. Il n'a pas transmis aux jeunes générations.
Non, ça s'est assez peu transmis, c'est un fait. L'école a commencé à le faire récemment, à l'occasion d'ailleurs de l'ouverture du procès de Douk, le directeur du centre d'internement et de torture de S21. Ça a commencé, donc c'était en 2009, donc c'est une dizaine d'années, c'est relativement récent. Et il y a aussi une autre raison qui explique pourquoi il n'y a pas eu de réelle transmission. C'est la peur qui est encore diffuse. Alors aujourd'hui, évidemment, on se dit que la peur, c'est peut-être un peu exagéré, mais elle est encore réelle dans la société cambodgienne.
Comment ça s'illustre, cette peur ?
C'est la peur de ne pas parler de ce passé. Parce qu'il y a des anciens Khmer Rouges au pouvoir, parce que il y a des intérêts économiques en jeu, parce qu'on sait que quand les Khmer Rouges sont partis, ils bénéficiaient jusqu'à la fin, jusqu'à quand ils sont donc le régime a chuté le 7 janvier 79. Ils bénéficient encore de l'aide et de soutien de conseillers techniques chinois. D'ailleurs, il y a des images assez célèbres où on voit quand les Vietnamiens arrivent au pouvoir, on voit les Chinois, les conseillers chinois partir en vitesse et quitter le pays. Donc il y a ce soutien des Chinois et il y a la peur donc dans la population de ranimer, de raviver en quelque sorte ce passé-là et de pointer du doigt un peu les responsables. Je finis juste parce que il y a aussi au sein même du pouvoir, c'est ce refus de parler et cette peur qui est transmise, elle est tout simplement véhiculée par le premier ministre en chef. C'est lui qui dit, il n'arrête pas de le répéter, il a dit, si on continue les procès, la guerre civile va revenir, si on fait venir même l'opposition. Il y a un débat aussi, il y a un discours très politique derrière. Si l'opposition revient au pouvoir, c'est le retour de la guerre civile, le retour de la guerre. Donc il y a une peur qui est toujours là, qui infuse même le discours politique et les pratiques politiques.
Et j'entends évidemment ce désir, en tout cas chez les politiques, et en particulier chez Hun Sen, de finalement privilégier l'unité nationale, peut-être aux dépens de cette mémoire. Bah, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une justice. Vous parliez de Dutch tout à l'heure, le fameux directeur de cette prison S21, qui était en fait un centre de torture, qui avait été condamné. Il y a d'ailleurs ces chambres toujours extraordinaires au sein de tribunaux cambodgiens, qui est un tribunal mixte, qui est chargé de juger les responsables Khmer Rouge depuis maintenant une dizaine d'années. La justice est là. Alors quoi, elle fait pas son travail?
La justice est là. Elle a jugé 3 personnes. Il y a eu Duc, effectivement, qui est un des grands responsables du génocide de Khmer Rouge, qui était le directeur de S21, mais qui n'est pas un idéologue, qui n'est pas l'un des architectes du système Khmer Rouge. On a jugé ensuite, ils viennent condamner d'ailleurs définitivement en novembre dernier, Nguyen Chi, qui était l'idéologue des Khmer Rouges, et Khieu Samphan, le chef de l'État Khmer Rouge. Donc ça en fait 2 qui effectivement ont été condamnés, notamment pour génocide, par les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Mais on en est à 3.
Et c'est rien.
Et il n'y a rien. C'est et rien. Les dossiers numéro 3, numéro 4, numéro 3, il y a eu un non-lieu. Le numéro 4 concerne des gens qui étaient des responsables régionaux qui ont massacré plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais on n'est pas sur des grands responsables. Mmh. Et tous les autres sont morts. Mmh. Pol Pot, évidemment, est mort. Mmh. Tamok, le grand boucher de l'ouest du pays, est mort. Le chef de la police secrète, Sun Sen, a été purgé. Donc il n'y a plus beaucoup de leaders, de grands responsables qui pourraient être jugés. Maintenant, on pourrait se dire, pourquoi pas juger les petits poissons.
Vous disiez qu'il y en avait encore aujourd'hui au gouvernement?
Oui, tout à fait.
Les responsables, alors c'est qu'il y en a encore.
Des gens qui ont une responsabilité politique, qui n'ont pas forcément du sang sur les mains.
Et pourquoi est-ce qu'on ne les poursuit pas, ça?
Parce qu'il y a un refus tout simplement de Hun Sen, il l'a répété plein de fois, d'aller au-delà. Mmh. Il a dit qu'il y aura 3 procès, il n'a jamais fixé le nombre de procès. Mais il a dit que ce n'était pas la peine d'ouvrir de nouveaux procès. Et il n'en veut plus, il dit que c'est fini, qu'il faut tourner la page. Donc il est... Très vraisemblablement, on va s'acheminer vers la fin des travaux des CETC.
Arnaud Vollerin, qu'est-ce qui reste de l'opposition aujourd'hui au Cambodge,
J'ai envie de dire rien. Politiquement parlant, en termes de représentation, l'Assemblée nationale est monocolore. C'est le parti de Hun Sen, le parti du peuple cambodgien. En 2017, le parti du sauvetage national, dirigé à la fois par Kem Sokha et Sam Rainsy, le parti a été dissous. Les élections de juillet dernier, donc... L'opposition n'a pas... Enfin, il y avait des partis d'opposition qui étaient des partis d'opposition fantoches. L'opposition donc de Sam Rainsy, qui vit en exil à Paris, de Kem Sokha, n'a pas pu présenter de candidat, a refusé en tout cas d'y participer. Donc il n'y a effectivement plus du tout d'opposition à l'Assemblée. Et il n'y a plus non plus de vie politique avec une opposition.
Et pourtant, il y a un moment, il y en avait, justement avant qu'on dissoute ce parti du Salut National, il y avait quelque chose dans l'opposition. On disait même, les observateurs disaient même... Bon, c'est pas parfait, mais on va plutôt dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette dérive autoritaire ?
Il y a 2 choses. D'une part, en 2013, le parti au pouvoir et le clan Hun Sen a été surpris par pas la victoire, puisque les élections étaient un peu trafiquées, mais c'est quand même le parti d'Hun Sen qui a gagné, au final. Mais le clan Hun Sen a été surpris par l'avancée de l'opposition dans des élections à la fois locales et les élections nationales. Ils se sont rendus compte, effectivement, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y avait toute une jeunesse, une classe moyenne qui aspirait à un réel changement, porté par Sam Rainsy et Kem Sokha. Et là, il y a eu une panique. Et à partir de ce moment-là, donc il y a deux ou trois années qui sont passées, quand à nouveau les élections se sont approchées, on a vu effectivement le pouvoir qui s'est raidi. Et qui redoutait effectivement d'être balayé dans les urnes. Et là, la machine Hansen, comme elle sait très bien le faire, elle l'a fait à de nombreuses reprises par le passé, elle a commencé à verrouiller tous les canaux possibles d'opposition, de critique, etc.
Les médias notamment aussi. Il y a énormément de journaux, de radio qui ont été fermés, Cambodia Daily, Radio Free, SGA aussi.
Il faut juste une parenthèse, il faut juste imaginer que le régime ne recule devant rien. C'est-à-dire qu'ils envoient des gens dans la rue pour bastonner, pour aller cogner les députés d'opposition, ou pour aller tiré dans une manifestation d'ouvriers du textile qui réclament une augmentation de 20-30 dollars sur des salaires de misère. Le régime en est là pour rester au pouvoir.
Deuxième grand papier, Arnaud Vollerin, qu'on peut retrouver sur le site de Libération, Sihanoukville. Petite cité balnéaire, toute tranquille, presque endormie, dans laquelle les Cambodgiens venaient, je parle au passé parce que c'est différent aujourd'hui, prendre un petit peu de bon temps pendant les fêtes. Désormais, l'ancienne bourgade a laissé place à une ville en pleine expansion avec des chantiers absolument partout, initiés par la Chine, des immeubles, des hôtels, des casinos, un nouvel aéroport, une autoroute, des infrastructures portuaires. Vous racontez tout ça dans votre papier. Pourquoi Sihanoukville en particulier? Quel intérêt pour les Chinois de prendre, d'investir sur ce territoire?
Il y en a plusieurs. Des intérêts, d'une part, il y a des infrastructures qui existent déjà, qui ont été en partie d'ailleurs financées par les Français, je parle du port en eau profonde, et également une route qui a été financée par les Américains dans les années post-indépendance. Donc il y a des infrastructures qui sont réelles, il y a une réelle activité économique grâce notamment à ce port. Donc ça, c'est l'aspect, j'allais dire, économique. Après, il y a des raisons aussi stratégiques, bien sûr, parce que le port de Sihanoukville, un port en eau profonde, qui est idéalement situé sur la route des nouvelles routes de la soie que la Chine a mise en place depuis 3-4 ans. Et ce port donc de Sihanoukville permet effectivement d'avoir un accès ou du moins un contrôle ou un point de passage vers le détroit de Malacca, qui est l'une des principales routes commerciales en Asie, et qui est cruciale et fondamentale pour la Chine, parce que c'est par cette route commerciale qu'elle s'approvisionne en carburant, en énergie et en matières premières.
Ça veut dire que demain, ça sera une base militaire? C'est pas le cas aujourd'hui. Vous racontez qu'il y a des navires qui sont récemment venus saluer fidèlement un peu le Cambodge. Mais à terme, c'est ça qu'on va faire? On va mettre une base militaire à Sihanoukville?
Alors, personne ne vous dira qu'il y a une
menace. Évidemment.
Projet. Mais... une scène, parce qu'il y a eu un projet, il y a eu des rumeurs qui sont sorties. Il y a eu un article qui a été publié à l'automne dernier pour effectivement qu'il pointait sur une petite île qui est au large de Sihanoukville, l'île de Kohong, où ils avaient remarqué effectivement que depuis une dizaine d'années, une entreprise chinoise qui construisait soi-disant un resort touristique de 45 000 hectares, hein, qui posait effectivement quelques inquiétudes. Sachant qu'on connaît en plus comment fonctionne la Chine et comment elle a positionné et construit tout un tas de choses en mer de Chine méridionale. Donc il y a eu de réelles inquiétudes, à tel point même que le vice-président américain, Mike Pence, s'est ému, quoi. Il a décroché son téléphone et il a appelé Hansen en lui disant que c'est que cette histoire, etc. Hansen a dû intervenir publiquement en disant qu'il n'y avait aucun projet, que c'était bafoué la souveraineté du pays, la constitution, etc. Soit. Mais il y a toujours cette société, cette entreprise chinoise qui, par ailleurs, a obtenu une concession pour 99 ans. Et il n'est pas impossible de penser effectivement qu'à terme, des bateaux, vous le disiez d'ailleurs, des bateaux militaires viennent, et ils sont venus d'ailleurs en janvier dernier.
Pour une visite amicale.
Amicale.
Voilà. Vous racontez aujourd'hui, Arnaud Vollerin, qu'il y a près de 40 000 Chinois répertoriés, peut-être le double en réalité, que tout dans certains quartiers, on ne parle presque plus que le mandarin. Par ailleurs, la communauté chinoise peut avoir une certaine tendance à vivre un petit peu en autarcie, en tout cas à la marge de la société cambodgienne. Les Cambodgiens, eux, en retour, se sont exclus, voire sont carrément expulsé, comme par exemple ce jeune gérant d'un restaurant que vous évoquez dans votre papier, qui a été obligé de partir tout simplement pour que le propriétaire du restaurant dans lequel il travaille puisse vendre le terrain à un riche chinois. Est-ce que ces investissements chinois à Sihanoukville, est-ce qu'ils relèvent d'une forme de néocolonialisme?
C'est un peu fort.
C'est précisément pour ça que j'utilise le terme.
En tout cas, ce sont des termes que moi j'ai entendus dans la bouche de Vietnamiens, de Cambodgiens. C'est pas un lapsus, parce qu'effectivement, avant, il y a quelques années, le grand ennemi des Cambodgiens, et notamment des Cambodgiens de la rue et de l'opposition, c'était de pointer du doigt l'invasion vietnamienne qui était certes venue libérer le pays, mais qui était restée pendant 10 ans.
Maintenant, c'est l'invasion chinoise.
Et voilà, effectivement, il y a eu une sorte de transfert qui s'est opéré depuis, on va dire, 5-6 ans. et qui va croissant, qui va crescendo. Et oui, les Chinois sont partout présents dans le pays, dans tous les secteurs économiques. Pour rester à Sihanoukville, ils ont, vous le disiez tout à l'heure, financé, construit une grande zone commerciale, une zone économique spéciale au nord de la ville, qui est le plus grand parc industriel de tout le pays, et qui à terme va concentrer 300 usines, qui emploie effectivement...
Essentiellement des usines chinoises.
Essentiellement, voilà, des usines chinoises, oui. Mmh. Qui emploie certes des Cambodgiens, au niveau inférieur, au niveau de, pour les ouvriers, mais dans toute la hiérarchie et tout l'encadrement de ces usines sont souvent des managers chinois.
Mais pourtant, Arnaud Vollerin, il y a normalement des dispositifs législatifs qui doivent permettre de protéger justement les Cambodgiens, mmh. et notamment sur les questions foncières. On ne peut pas avoir plus de, je crois, 49% un étranger ne peut pas avoir plus de 49% d'un terrain. Donc ça veut dire qu'a priori, les Cambodgiens sont protégés sur le plan de la loi.
Oui, ça a été la grande blague, certainement pendant 15 jours, parce que les gens me disaient ça, effectivement, du côté gouvernemental, du côté des responsables économiques, tout le monde me disait, vous savez, on a une loi qui nous protège, et on peut pas, effectivement, se défaire de notre souveraineté. Après, les uns me disaient qu'il est possible de faire des partenariats, donc de 51% pour un Cambodgien, et tout le reste peut être effectivement aux Chinois. Et puis après, quand on regarde un peu dans le détail et dans les textes, on se rend compte que rien n'empêche, et d'ailleurs des responsables gouvernementaux me l'ont dit officiellement, rien n'empêche des citoyens chinois d'acquérir la citoyenneté cambodgienne.
D'être naturalisé, oui.
Et à partir de là, c'est aussi simple que ça.
Mmh. Est-ce qu'il y a une mobilisation justement du côté de la société civile? Est-ce qu'elle est aussi un peu relayée au niveau politique? Est-ce qu'on peut imaginer que des mouvements civils se durcissent un peu sur cette question-là? Ou est-ce qu'il n'y a aucune chance?
Il n'y a pas de mobilisation sur ça. C'est comme sur les questions de justice, les questions de mémoire, les questions de passé. La Chine est en train d'investir massivement et elle apporte du travail, etc. Donc il y a un vrai refus de critiquer ça. Et puis l'opposition, enfin on en parlait tout à l'heure, l'opposition n'existe plus vraiment, la société civile non plus, et en plus si on commence à attaquer ce genre de sujet, on va attaquer effectivement la déforestation, on va attaquer tous les problèmes environnementaux causés par cette croissance galopante et ce système de développement économique, et là on touche aux intérêts cruciaux du régime.
Arnaud Vollerin, ce sera ma toute dernière question. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut établir une corrélation entre les deux choses qu'on a évoquées, c'est-à-dire d'un côté le durcissement du régime et de l'autre la montée en puissance de l'influence chinoise? Est-ce qu'on peut imaginer un accord tacite, évidemment, entre le gouvernement cambodgien et Pékin, par lequel le second protège le premier contre l'accueil des investissements?
Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Je sais que la Chine, on l'a vu, c'est pas, j'enfonce des portes ouvertes. La Chine a besoin d'alliés dans la région pour avancer ses projets, notamment de la nouvelle route de la soie, et puis aussi pour avoir des partenaires dans les discussions, des gens qui peuvent faire balancer, peuvent influer sur le discours de certaines négociations internationales, notamment au sein de l'Association des États de l'Asie du Sud-Est. Mmh. Donc il y a vraiment effectivement cet accord de principe, et on sait que... Donc la Chine a besoin d'alliés indéfectibles, le Cambodge en est un, le Laos voisin en est un, un peu plus loin le Sri Lanka en a été un également, et on sait que dans ces pays-là, la Chine a lourdement investi et elle a mis ces pays sous pression et sous sa dépendance. Et c'est un système effectivement qui fait école de plus en plus en Asie du Sud-Est. Il y aura certainement des développements à voir avec la Thaïlande et la Birmanie dans les années qui viennent.
Merci beaucoup Arnaud Vollerin d'être passé dans nos studios. Je rappelle que donc vous êtes journaliste pour Libération. On peut relire vos excellents reportages, vraiment je le dis, excellents sur le site de libération.fr. Et puis je rappelle aussi que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui était paru chez Grasset en 2016, La désolation, les humains jetables de Fukushima, parce que vous avez longtemps été correspondant au Japon. Bon. Arnaud Vollerin, merci infiniment. Allez, on quitte le Cambodge, direction le Moyen-Orient. À qui profitera la politique sécuritaire de Trump? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Mercredi se tenait à Washington une réunion de la coalition internationale qui combat l'État islamique depuis 2014. On se souvient que mi-décembre, Donald Trump avait annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. Il n'a pas fait d'annonce sur les modalités de ce désengagement, mais il a prédit l'éradication imminente de Daesh.
L'armée des États-Unis, nos partenaires de la coalition et les forces démocratiques syriennes ont libéré la quasi-totalité des territoires auparavant contrôlés par Daesh en Syrie et en Irak. L'annonce formelle que nous avons repris 100% du califat devrait intervenir la semaine prochaine.
Bon, bah, puisque le califat n'est presque plus, quel sera désormais l'engagement américain dans la lutte contre Daesh? Désengagement total ou évolution des moyens et des modes d'action? À qui profitera la politique sécuritaire américaine de Donald Trump? Alexandra de Hoopscheffer et Ziad Majed sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Alors, Donald Trump, on l'a entendu, a évoqué la fin imminente du califat. En revanche, il n'a rien dit concernant le retrait des troupes américaines qu'il avait annoncé en décembre dernier. Mike Pompeo, lui, a bien précisé que le retrait de Syrie ne signifierait pas, je le cite, la fin du combat américain, expliquant que la nature du combat était en train de changer et qu'il ne serait plus forcément en premier lieu militaire. On a senti dans cette réunion, Marc Semo, une véritable intention de la part de l'administration américaine de rassurer ses alliés, en fait.
Oui, il y a une intention de rassurer, en partie ça a été fait, mais de fait, ça n'a rien résolu sur le fond. Parce que, on l'oublie un peu, il n'y a pas une, mais des guerres syriennes. Il y a la guerre de la coalition internationale contre Daesh, il y a celle du régime contre ce qui reste de l'opposition, il y a celle des Kurdes contre les Turcs, et il y a celle d'ailleurs aussi entre Israël et l'Iran. Et donc, à cette aune, la politique syrienne de Donald Trump est totalement illisible et incompréhensible. Alors, effectivement, il a rassuré les alliés sur le caractère coordonné et le calendrier du retrait des troupes américaines de la zone kurde. Il reconnaît maintenant que si l'ancrage territorial de Daesh est fini, ça reste une menace, mais il reste l'après. Parce que le seul moyen pour les Occidentaux de peser dans le dossier syrien, dans de futures négociations, c'est de garder, quelque part, des troupes au sol. Le seul moyen de conserver leur crédibilité vis-à-vis de leurs alliés en général, c'est de ne pas abandonner, évidemment, les Kurdes qui ont été essentiels sur le terrain à leur sort. Et le seul moyen de contrer l'Iran, qui est du propre aveu de Trump et son objectif principal, c'est évidemment de ne pas lui laisser le champ libre en Syrie. Et donc, qu'est-ce que veut réellement Trump? On ne le sait pas.
Alors, permettez-moi, Alexandra de Hoopscheffer, peut-être de commencer avec Ziad Majed, si vous le permettez, parce que il y a donc un mois et demi, Donald Trump nous disait « ça y est, Daesh est éradiqué ». Là, il nous dit « la semaine prochaine, Daesh sera éradiqué, donc c'est presque fait ». Ziad Majed, éclairez-nous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Daesh est presque anéanti? Qu'est-ce qu'il en reste?
Oui, alors, certainement, Daesh n'est pas encore anéanti. Il y a encore des poches en Syrie, et puis il y a des troupes mobiles. Sinon, il y a toutes les conditions sociales, économiques et toutes les horreurs qui ont été commises les dernières années permettant à des phénomènes comme Daesh d'émerger de nouveau. Donc même s'il y a une défaite militaire sûre de Daesh qui a perdu 34-35% du territoire syrien que l'organisation contrôlait, mais les conditions pour une réémergence de Daesh sont toujours là. Il n'y a pas de solution politique, il y a toujours une impunité, il y a toujours un régime qui a massacré sa population qui est en place, il y a des occupations, et donc il y a les autres guerres que Marc Simon a évoquées, ce qui fait que la victoire contre Daesh n'est pas encore une réalité, et de toute façon elle ne sera jamais uniquement militaire, sécuritaire, il y a beaucoup de champs de combat contre Daesh et les phénomènes qui ressemblent à Daesh.
Et pour nous autres Européens, Occidentaux, la menace, est-ce que des attentats type Bataclan, par exemple, sont possibles aujourd'hui? Ou le niveau de désorganisation est tel que c'est compliqué?
Ça dépend comment on lit aussi et on analyse ce genre d'attentat. Si on considère que tout est centralisé et tout est commandé, soit de la Syrie, soit de l'Irak, c'est devenu de plus en plus compliqué et difficile. Mais en même temps, avec certaines cellules et certains individus parfois qui sont influencés par une idéologie, qui peuvent passer à l'acte, et ça c'est le génie diabolique, si vous voulez, du djihadisme aujourd'hui, c'est qu'une personne peut transformer sa voiture en une arme de fatale. Quelqu'un qui est déstabilisé, qui a subi des problèmes psychiques importants peut devenir un criminel. Et puis, il bascule dans une idéologie en prétendant que cela va sublimer son meurtre et le rendre un martyr ou un héros, etc. Donc, c'est difficile de se projeter.
Alexandra de Hubschefer, tout à l'heure, Marc Semo disait finalement la politique syrienne de Donald Trump est incompréhensible. Et c'est vrai qu'on a du mal à lire les choses. Mi-décembre, retrait sec et brutal. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, ce retrait va pas être aussi sec que ça, mais que quand même des choses vont changer. Il y a plein de conséquences à tout ça. La question kurde, Israël, même la Russie, etc. On va les évoquer toutes. Mais de façon générale, vous êtes d'accord avec Marc Semo, la politique syrienne de Donald Trump est incompréhensible?
Il est rattrapé par la réalité du terrain, tout comme Obama, Bush Junior avant, ont été rattrapés par la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il est plus facile finalement d'intervenir, d'engager des troupes, même si c'est une responsabilité énorme, que de sortir. Et donc ce qu'on voit, c'est que s'il est très très difficile de définir une stratégie de sortie cohérente et qui surtout s'aligne sur le calendrier qu'il souhaiterait imposer finalement. Et dire que Daesh sera sans doute détruit la semaine prochaine, c'est d'une absurdité totale. On ne fixe pas une deadline à ce mouvement qui, de toute façon, va se perpétuer soit sous le nom de Daesh ou un autre. C'est une guerre de toute façon perpétuelle. Et c'est vrai que quand Trump dit dans son discours sur l'état de l'Union qui a eu lieu cette semaine, les grandes nations n'ont pas vocation à être dans des guerres sans fin. Malheureusement, si. Surtout cette guerre contre des mouvements terroristes de plus en plus décentralisés, de plus en plus fluides, qui traversent les frontières, la Libye, la Syrie, l'Irak, enfin, c'est en Afrique, etc. Il y a des effets de débordement sur l'ensemble du continent Moyen-Orient africain, c'est une guerre qui est malheureusement presque infinie.
Oui, mais je vais me faire l'avocat de Donald Trump, pardon, s'il m'arrive de temps en temps de le faire. Mais compte tenu de l'évolution des choses, effectivement, on n'est plus dans une lutte type étatique ou proto-étatique telle qu'elle existait jusqu'ici. Ziad Majan nous l'a dit, aujourd'hui, il reste quelques poches, on a basculé dans quelque chose qui ressemble plus à de la guérilla. Au fond, à quoi serviraient des soldats américains compte tenu de ce nouveau contexte? Est-ce que Donald Trump a pas raison? Militairement, les Américains ne peuvent plus rien, en tout cas plus sous la forme qui existait jusqu'ici.
Le problème, c'est que la solution, enfin en tout cas l'instrument qui a été privilégié jusqu'à maintenant, c'est l'instrument militaire. Ce sont les frappes aériennes, ce sont les forces spéciales, etc. Donc effectivement, le fond du problème, le fond des causes derrière la menace terroriste n'ont absolument pas été traitées. L'aspect économique, financier, politique, sociétal. Donc de former des forces locales ou de former les milices kurdes sans qu'il y ait eu un rattachement à une quelconque autorité politique crédible, légitime, ne sert finalement à rien. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il faut revisiter les instruments qui ont été déployés jusqu'à maintenant, mais sur qui est-ce que ça retombe? Je suis d'accord que la réunion...
Européens.
Oui, bah oui, puisque la réunion là sur la coalition internationale, c'était certes de rassurer les Européens, mais aussi de nous demander plus. Et de nous demander plus en termes de financement, de la reconstruction et notamment de la reconstruction en Irak, et puis de demander aussi plus en termes de rapatriement des combattants étrangers. On voit à quel point ce sujet est politiquement très sensible.
Ouais,
et demander plus aussi en termes de partage du renseignement. Parce que vous dites, est-ce que Trump a raison ou pas, et quel impact ça peut avoir de retirer ces 2000 forces spéciales américaines? Ce qu'il faut savoir, c'est que les frappes aériennes, elles sont cohérentes, elles sont bien ciblées grâce aux renseignements fournis par ces forces spéciales. Et donc, si vous enlevez cette ressource-là du renseignement, vos frappes aériennes sont beaucoup moins téléguidables, si je puis dire. Et donc ça retombera également sur les autres membres de la coalition.
On va faire dans l'ordre de la demande de parole, Ziad Majed et puis Marc Semo. Ziad Majed.
Non, je voulais dire que le problème que pose cette annonce du retrait américain de la Syrie n'est pas tellement l'efficacité de la guerre contre Daesh que tous les enjeux politiques que ce retrait pourrait, disons, rendre encore plus confus, ambigu, avec énormément de fronts où les décisions américaines ont souvent été récemment imprévisibles. C'est-à-dire, il y a la priorité que Trump avait évoquée lui-même, la lutte contre l'Iran. Comment on se retire d'un pays dans lequel l'Iran s'investit énormément en disant que la priorité, c'est de battre les Iraniens? Il y a les enjeux et la solution que souhaitent imposer les Russes. La présence américaine, bien que symbolique, efficace au niveau des raids aériens, mais qui n'était pas d'une grande ampleur militaire, rendait quand même la solution finale russe presque impossible sans un aval américain. Maintenant, les choses peuvent changer. Il y a un enjeu turc-kurde très important qui était plus ou moins contrôlé par cette politique équilibriste américaine. Cela peut changer également. Le régime syrien qui survit aujourd'hui grâce aux Iraniens et aux Russes, est-ce qu'il va prendre de l'air? Il va essayer d'aller récupérer plus du terrain ou pas? Donc il y a énormément de questions que cette annonce a déjà créée. Et puis il y a des contradictions. Il dit à Erdogan par téléphone « It's all yours ». Il l'invite presque à prendre la Syrie. Puis, quelques jours plus tard, il dit qu'il allait dévaster l'économie turque si les Turcs s'attaquaient aux Kurdes. Puis, il l'appelle de nouveau et les choses semblent être de nouveau dans l'ordre.
Il maintient un certain équilibre, d'une certaine manière.
Non, en plus, il envoie Pompeo dans les pays du Golfe et en Égypte. Ouais. Et il envoie Bolton en Israël et en Turquie avec des messages un peu différents et avec des clashs avec Ankara. Donc, il y a énormément d'incohérences dans cette politique.
De fait, c'est ça le problème. C'est qu'au-delà de la lutte contre Daesh, parce que bon, d'une certaine façon, les États-Unis peuvent très bien continuer la lutte contre ce qui reste de Daesh depuis l'Irak. Ils peuvent rebasculer très vite. Donc la question aujourd'hui, effectivement, d'enlever le terreau du terrorisme, c'est quelque chose de beaucoup plus longue haleine. Le vrai problème, c'est toujours cette illisibilité américaine. Et pour prendre un exemple concret, justement, celle de la zone de sécurité. Parce que c'est un mot dont on parle depuis quasiment...
Dans le nord de la Syrie, hein, sur la frontière turque.
Sur le long de la frontière turque, on en parle quasiment depuis le début de la guerre.
C'est l'hypothèse défendue par Washington.
Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce qu'il y a deux lectures diamétralement opposées. Il y a celle de la zone tampon qui permet aux Turcs de se protéger des Kurdes qui sont effectivement organiquement liés au PKK, organisation considérée comme terroriste par l'Union Européenne et les Américains, et par Ankara, qui est en lutte contre Ankara, ou est-ce que c'est une réserve indienne pour protéger les Kurdes? Et on ne sait toujours pas aujourd'hui qu'est-ce qu'entend Trump par là, comme le disait très bien Ziad, d'un jour à l'autre ça change.
Alexandra Debouchefer, qu'est-ce que vous en avez compris de cette zone de sécurité? C'est pour protéger la Turquie ou c'est la réserve indienne pour les Kurdes?
Cette zone, en fait, tampon où Washington est très présent, sert à contenir toutes sortes d'acteurs. C'est à la fois l'Iran, c'est à la fois la Russie, c'est à la fois la Turquie. Et donc, effectivement, le retrait des forces spéciales sur lequel Trump a tweeté, en fait, enlève cette espèce de rôle tampon que les États-Unis pouvaient jouer entre toutes les forces en présence qu'on vient de décrire, à la fois régionales et internationales. Mais ce qui se passe maintenant, c'est effectivement Pompeo qui dit on change de tactique et non pas de mission. Mais le rêve, finalement, de l'administration Trump, ce serait finalement d'avoir une OTAN arabe, Arab NATO, comme il dit, c'est-à-dire une coalition, notamment constituée des monarchies du Golfe, qui pourraient prendre le relais financier et militaire des États-Unis dans la région. Notamment avec l'idée que plus il y a une présence de ces monarchies du Golfe dans des conflits comme l'Irak ou la Syrie, ça permet de contrebalancer également l'influence de l'Iran. Ça, c'est vraiment dans l'approche américaine. Et deuxième chose, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la vision plus large en ce moment des nouvelles priorités de la politique étrangère américaine. Le commandant des forces armées américaines au Moyen-Orient, le Central Command, était auditionné au Sénat il y a quelques jours. On lui a posé exactement la question, est-ce que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient? Il a dit, relisez tous nos documents de doctrine qu'on a sortis depuis le début de l'élection de Trump. Il est très clair que nous, notre priorité aujourd'hui, c'est la compétition technologique, cybernétique, de l'innovation avec la Chine et avec la Russie. Et donc, ça implique un repositionnement de notre présence militaire au Moyen-Orient. Et c'est pas seulement le Moyen-Orient, c'est en Afrique. Le Pentagone vient d'annoncer qu'il allait réduire, qu'il projetait de réduire de 10% la présence militaire américaine, notamment au Cameroun et au Niger. Et là aussi, ça aura des implications sur nous et notamment la France, qui est très investie dans cette zone-là. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment un désengagement, mais une réorganisation des priorités stratégiques américaines qui sont totalement focalisé sur en particulier la Chine et le défi que représente la Chine et la nécessité finalement de sous-traiter la gestion de ces crises incompréhensibles pour les Américains et très complexes aux acteurs régionaux et aux Européens qui sont géographiquement plus proches de ces crises.
Quand vous me l'expliquez comme ça, c'est tout à fait sensé. C'est très loin de la dimension incompréhensible de la chose que décrivait tout à l'heure Marc Semaux. Je comprends parfaitement ce que vous dites et au fond, c'est sensé.
Absolument. Du point de vue américain. Et c'est pas.
Oui,
c'est,
non. Sauf que par rapport à l'Iran, ça ne l'est pas. Voilà. Par rapport à la Russie, ça ne l'est
voilà,
pas.
Voilà. Quand on regarde de plus près, ouais. Effectivement, il y a des contradictions.
Je dirais trois choses par rapport à cela. Ce repositionnement américain, d'ailleurs, avait commencé même avec Obama.
Bien sûr. Bien sûr.
On a évoqué la fatigue par rapport au Moyen-Orient, la complexité de certaines causes, la fatigue même du conflit israélo-palestinien. Et Obama n'a pas réussi à avancer sur la plupart des dossiers qu'il traitait. Sauf que maintenant, avec Trump, cela se précise davantage, mais avec une priorité américaine annoncée, qui est l'Iran. Il a annulé l'accord, il a déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, et il considère que la lutte contre l'Iran est une priorité, d'où la question un peu imprévisible par rapport à la Syrie et par rapport à ce qui reste de l'intérêt américain direct dans le Moyen-Orient.
Sur l'Iran, je vais encore me faire l'avocat de Trump, il y a un moment où il faudra... Mais après tout, la stratégie, la tactique de Donald Trump sur l'Iran, c'est de faire tomber le régime, c'est d'appuyer très fort sur les sanctions économiques pour accélérer cette contestation sociale et faire tomber le régime. Donc, quel intérêt d'avoir militairement des hommes sur place, puisque de toute façon, vous avez choisi cette tactique-là. C'est cohérent.
On sait que les sanctions ne sont pas suffisantes pour faire tomber un régime. Il y a des sanctions contre l'Iran depuis très longtemps. Ça a été un peu modifié récemment et maintenant ça reprend. Donc ça, c'est pas une chose certaine dans ce sens-là. En plus, se retirer de la Syrie, ça veut dire que les chances d'une confrontation israélo-iranienne deviennent plus importantes et donc les Américains ne sont pas neutres dans ce sens-là et ils restent en Irak de toute façon. Donc il y a des choses quand même qu'on peut toujours revoir. La deuxième question rapide, c'est l'OTAN arabe. On voit aujourd'hui son inefficacité au Yémen. Donc je ne pense pas avec un échec au Yémen, les Saoudiens et les Émiratis ont l'ambition d'aller se projeter en plus en Syrie. Et dernièrement, pour la zone tampon, il y a quelques propositions qui commencent à circuler aujourd'hui, c'est-à-dire si on parle de ces fameux 32 kilomètres comme profondeur, avec une invasion, j'ose dire, turque de la zone, mais qui épargnerait trois concentrations démographiques kurdes dans trois villes, Kobani, Qamishli et Amouda. Et on évoque même un rôle des Peshmerga, qui sont pro-Barzani, qui ont une base sociale et politique en Syrie, mais qui n'ont pas une présence militaire importante, pour éloigner le PKK et le rendre plus dans une zone plutôt au sud de Raqqa et dans la région de Deir ez-Zor, encore en contact direct avec ceux qui restent des poches de Daesh. Donc il y a des propositions qui commencent à s'élaborer, mais rien n'est décidé encore. Et il y aura un sommet le 14 février entre Turcs, Russes et Iraniens, qui probablement aura de l'influence sur tout cela.
On va rester justement sur cette question kurde. Place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Vendredi, on sélectionne un dessin sur notre sujet du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux. Ah si.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Justement, ce matin, un dessin sur les Kurdes.
Et oui, un dessin pour dénoncer l'abandon des Kurdes par leurs alliés américains. Il est signé LaSerp. LaSerp en un seul mot, c'est le pseudo d'un caricaturiste français, Gilles Lafitte, qui collabore ou a collaboré pour de nombreux journaux en France, de Marianne à Ciné Mensuel, en passant par Politis et Ouest France. Et ce n'est pas la première fois que LaSerp alerte dans ses dessins sur la situation des Kurdes. Alors dans celui-ci, eh bien, nous sommes quelque part en territoire kurde, au nord de la Syrie. Vraisemblablement, une terre désertique et caillouteuse pour tout paysage, une terre sur laquelle on aperçoit deux drapeaux flotter au loin, celui de l'État islamique tout à droite et celui de la Turquie à l'opposé tout à gauche. Nous sommes dans une de ces zones du conflit où les frontières sont mouvantes et l'occupation des territoires précaires selon les batailles gagnées ou perdues. Au premier plan, deux combattants kurdes, un homme et une femme en tenue de soldat. Lui, un genou à terre, mitraillette entre les mains. Elle, debout, son arme accrochée dans le dos. Elle tient entre ses mains une lettre qu'ils viennent de recevoir. Une lettre de Trump, demande l'homme. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit de construire un mur, répond la femme. Un conseil pour le moins cynique. En quoi un mur pourrait-il bien les protéger? La Serpe souligne ainsi le tragique abandon des Kurdes par leurs alliés, eux qui étaient pourtant en première ligne face à Daesh, eux qui, sans armes lourdes ni aviation, eh bien, risquent de se retrouver bien vulnérables après le départ des Américains. Il montre surtout à quel point les priorités, pour ne pas dire les obsessions du président américain, sont ailleurs. Référence à cet autre mur que Donald Trump voudrait tant voir construire à la frontière mexicaine. On le voit bien sur le dessin, nos deux combattants sont un peu sonnés par le conseil. L'homme écarquille les yeux, incrédule. Mardi dernier, dans une tribune au Monde, Kendall Nezan, le président de l'Institut kurde de Paris, résumait ainsi la situation. Les Kurdes, je cite, seront désormais contraints de choisir entre la peste d'une invasion turque et le choléra du retour du régime de Bachar al-Assad. Alors quel avenir pour eux après le retrait américain? C'est bien la question que pose la Serpe dans ce dessin, et c'est celle qui devrait se poser effectivement dans les mois à venir.
Un dessin retrouvé, Mélanie, sur le fil Twitter de Culture Monde
et sur le site de notre
internet
page.
De France Culture. Réaction avec nos deux invités, Alexandra Dehoub-Scheffer, le mur, hein, c'est la solution à tous les problèmes sécuritaires de Donald Trump.
Oui, on ne peut pas ériger des murs partout pour se protéger ou assurer soi-disant la protection des autres, mais ce dessin montre effectivement le problème de la crédibilité des États-Unis. Il y a une vraie crise de confiance aujourd'hui dans les États-Unis et surtout dans les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs alliés. Les trois grands perdants dans cette décision de Trump de retirer les troupes américaines, c'est bien sûr en premier lieu les Kurdes, sans lesquels les Américains n'auraient pas pu accélérer cette campagne anti-Daesh. Ce sont nous, les alliés dans la coalition, mais c'est également Israël. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est les trois alliés les plus proches des États-Unis dans cette lutte contre Daesh qui souffrent le plus de cette décision. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une conséquence de ce vrai doute dans la capacité des États-Unis de tenir leurs engagements, et je pense que c'est vraiment un leitmotiv dans la politique de Trump, c'est que ça pousse d'autres puissances à être encore plus interventionnistes et encore plus agressif finalement. Et donc on le voit avec l'Arabie Saoudite au Yémen, on le voit avec Israël donc en Syrie, et puis on le voit avec la Turquie vis-à-vis des Kurdes. Donc tout ça finalement enclenche des mouvements et des incursions qui ne vont que s'accentuer dans ce contexte-là.
Ziad Majed, sur ce dessin, alors il y a évidemment ce mur, cette zone de sécurité en réalité, mais il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il faut peut-être pas oublier. Donald Trump essaye de défendre aussi les Kurdes en menaçant la Turquie de ravager l'économie. Vous le disiez tout à l'heure, Donald Trump a dit « si la Turquie touche aux Kurdes, je ravage l'économie turque ». C'est pas rien. Est-ce qu'Erdogan a entendu le message?
Oui, certainement, il a entendu le message, mais Erdogan aussi a entendu plusieurs messages contradictoires de la part des Américains, et il sait jouer sur les contradictions, s'il se sent lui-même un peu inquiet aussi par rapport à la suite, parce qu'il y a d'autres acteurs qu'on n'a pas évoqués. Il y a les Russes, il y a les Iraniens qui ont...
Les Russes sont les grands gagnants là, de cette histoire de ce retrait américain en Syrie?
Pour le moment, mais même pour les Russes aussi...
Maximo fait l'amour, on
oui,
va lui donner on la sait, parole.
Pour le moment, ils se sentent plus ou moins apaisés par cette situation-là, mais en même temps, ils disent qu'ils ne prennent pas au sérieux tout à fait l'annonce. Et d'autre façon, elle va prendre du temps. Et jusqu'à maintenant, il y a eu juste du matériel qui a été retiré, mais pas encore des troupes sur le terrain. Mais entre Turcs, Russes et Iraniens, il y a aussi beaucoup de négociations aujourd'hui. Il y a tout le nord de la Syrie qui est en jeu. Il y a la région de Idlib que la Turquie peut l'utiliser aussi comme monnaie d'échange, surtout après la prise par une grande partie de Idlib par le front al-Nusra ou Tahrir al-Sham. Donc il y a toujours des paramètres dans cette malheureuse Syrie qui changent année après année, et il y a les frappes israéliennes qui s'accélèrent maintenant contre les Iraniens et contre Hezbollah, et on ne sait pas s'il y aura une tentative iranienne de riposter un jour, ou s'ils vont continuer à essayer juste de gagner du temps.
On va parler juste après d'Israël, il nous reste encore quelques minutes, mais Marc Sebo, la Russie n'est pas nécessairement la grande gagnante de ce retrait américain de Syrie.
Militairement, elle a joué un rôle déterminant pour permettre la victoire du régime, mais il lui faut transformer l'essai diplomatiquement pour arriver à trouver une solution. Or, jusqu'ici, quand on voit les interventions russes dans ce qu'elle appelle son étranger proche, l'Ukraine, la Géorgie, etc., ça a toujours été de geler des conflits. Sauf que là, en Syrie, vu le nombre d'acteurs différents, ce n'est pas possible de geler le conflit. Et donc le risque aujourd'hui pour la Russie, qui reste un pays, on l'oublie, dont le PIB est quand même celui de l'Italie, c'est de s'enliser dans une guerre qu'elle n'a pas les moyens de tenir.
Oui, d'accord Marc, mais jusqu'ici, ce qui posait aussi problème pour trouver cette solution politique que vous décrivez, c'était la question kurde. Or là, la question kurde, elle est quand même un peu changée avec ce retrait américain, parce que les Kurdes vont aussi peut-être choisir de se rapprocher du régime de Damas pour précisément se protéger de la Turquie, et d'une certaine manière, là, pourrait apparaître peut-être un début de solution politique. Ziad Majed, non.
Non, je pense que la question n'est pas seulement une question kurde. Évidemment, c'est une question importante, elle pose aussi toute la perception de quelle Syrie on souhaite avoir plus tard, un système fédéral, une autonomie kurde, les Turcs qui ne sont pas du tout d'accord avec ce genre de proposition, l'Iran qui a toujours ses intérêts et souhaite être sûr que l'axe Téhéran-Bagdad, Damas-Beyrouth ne soit pas affecté par tout ce qui se passe. Et puis on a oublié de préciser qu'il y a une base militaire américaine dans le sud du pays, dans le Tenf, une zone désertique avec une zone tampon autour qui est sur la frontière irako-jordanienne, syrienne, et que les Américains ont dit qu'elle n'est pas concernée par le retrait parce que c'est une zone d'observation de cette ligne iranienne-là qui passe de Téhéran vers Beyrouth. Mais par rapport à la solution politique, elle n'est pas seulement par rapport aux Kurdes. Il y a des résolutions onusiennes que la Russie n'arrive pas à faire oublier complètement, y compris les régimes arabes qui souhaitent normaliser avec Damas, le rappellent encore suite aux sanctions américaines et européennes contre le régime qui rendent la reconstruction que les Russes veulent et qui n'ont pas les moyens de financer, la rendent très difficile avec la nouvelle vague de sanctions il y a 2 semaines qui ont touché les hommes d'affaires du régime et toutes les sociétés qui travaillent avec ce régime-là. Puis il y a de plus en plus des mandats d'arrêt qui vont rendre la circulation de certains notables du régime encore plus difficile aussi. Donc les Russes ont gagné militairement, il n'y a pas de doute, mais ils n'arrivent pas à boucler politiquement, ils n'arrivent pas à imposer une solution politique.
Et le retrait américain ne change rien.
Ne change rien à ce niveau-là, parce que toujours, il y a des gens qui ne veulent pas de la famille Assad et de 48 ans de barbarie en Syrie, tout simplement.
Alexandra Dobscheffer, sur Israël. Pour Israël, en revanche, le départ des soldats américains, c'est pas une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Netanyahou a tout fait pour essayer de dissuader Trump de désengager les forces américaines. Dans quelle mesure est-ce que vraiment c'est problématique pour l'État hébreu et comment Israël pourrait réagir ?
Israël réagit déjà. En étant beaucoup plus attentive à ce qui se passe en Syrie, en multipliant également les incursions, un peu comme la Turquie. Et là, c'est vrai qu'on voit les alliés stratégiques des États-Unis dans la région commencer à finalement prendre un peu plus d'indépendance, à s'autonomiser un peu plus des États-Unis puisqu'ils se retirent partiellement et de définir en fait une politique beaucoup plus interventionniste. Donc effectivement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que Obama, Trump ne cessent de répéter que la Syrie ne représente aucun intérêt vital pour les États-Unis au moment où la Syrie devient véritablement l'espace politique où s'affrontent en fait toutes les puissances que soi-disant les États-Unis cherchent à contenir, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie d'une certaine manière.
Il nous manque la Chine dans le tableau.
Et je n'exclus absolument pas. Pourquoi pas d'ici quelques mois ou un peu plus tard une intervention d'une manière ou d'une autre de la Chine. Et donc voyez économique. Un petit peu pour moi le plus grand paradoxe. Alors c'est vrai que ça paraît assez logique qu'on pivote vers les défis chinois, russes, parce que c'est le combat des grandes puissances du 21e siècle. Il faut que les États-Unis rattrapent leur retard technologique, etc., pendant qu'ils faisaient la contre-insurrection en Irak et en Afghanistan. Mais ils sont en train de repositionner leur présence militaire en Afrique et au Moyen-Orient au moment où la Russie et la Chine sont en train de renforcer leur présence, y compris militaire, dans cette région-là. Donc la bataille, je dirais, entre États-Unis, Russie et Chine se passe aussi sur ce continent-là, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Présence militaire, mais aussi présence économique. On pourrait très bien avoir un scénario, Ziad Majed, je ne sais pas ce que vous en pensez, où on a donc ce retrait américain, on se tourne vers les Européens qui, eux, de toute façon, n'ont pas véritablement les moyens économiques de mettre l'argent sur la table pour reconstruire cette Syrie, et les Chinois arriveraient là en disant, bah, nous on veut bien investir, et donc d'une certaine manière tireraient leur épingle du jeu. Est-ce que ce scénario est complètement loufoque?
Moi je n'y crois pas, parce que si les Chinois voulaient vraiment aller vers la reconstruction, entre guillemets la reconstruction, ils auraient pu commencer il y a un an, il y a un an et demi. Le fait qu'ils ne l'ont pas fait pousse les Russes à demander de plus en plus aux Européens de reconstruire en utilisant la question des réfugiés, comme ça vous allez permettre aux réfugiés de revenir.
Peut-être qu'ils n'y allaient pas précisément parce que les Américains étaient toujours sur place.
Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, il y a les Américains sont sur place à l'est du pays, à l'est du fleuve l'Euphrate, dans une zone souvent désertique, même si elle a des ressources naturelles importantes, gaz, pétrole. Mais il y a tout l'ouest de la Syrie et toute la côte qui n'a même pas eu des dégâts durant la guerre, parce qu'elle était contrôlée par le régime qui bombardait à partir de là-bas les autres zones. Il n'y a pas eu des investissements chinois importants. Je pense que les Chinois sont rationnels et ils savent que la situation est toujours très volatile. Ils ne veulent pas s'aventurer avant d'être sûr qu'il y a une solution. Mmh. Et cette solution est loin de voir le jour. Ouais. Il peut y avoir des risques, par contre, d'un déplacement de conflit entre Israël et l'Iran vers le Liban. Il y a de plus en plus de menaces contre le Hezbollah libanais que le gouvernement à Beyrouth, qui vient d'être formé, prend en considération. Et puis, je voulais juste conclure sur une question par rapport aux Américains. Je n'ai aucune sympathie avec leur politique dans le Moyen-Orient, ni avec leurs alliés israéliens qui violent le droit international, ou les monarchies du Golfe, ou les dictatures de la plupart des pays arabes. Mais les Américains sont en train de perdre la crédibilité par rapport à ces mêmes alliés, vu le fait qu'ils n'offrent plus des garanties à leurs alliés de protection durable. Contrairement aux Russes, qui, à travers l'intervention en Syrie, voulaient montrer qu'ils sont fidèles et qu'ils ne laissent pas tomber leurs alliés. Et puis, il y a le modèle démocratique occidental en général qui est en crise et donc qui ne fascine plus, et on n'arrive plus à menacer par rapport aux droits de l'homme des gouvernements qui abusent de ces droits de l'homme-là. Donc l'homme providentiel, le modèle de Poutine, l'homme autoritaire fort, etc., séduit. Et c'est pour ça qu'on voit des Sisi ou des Mohammed bin Salman ou des Mohammed bin Zayed flirter avec Moscou. Et ce n'était pas le cas avant, où tout le monde voulait juste la satisfaction des Américains. Donc les choses peuvent changer à ce niveau-là aussi.
Alexandra Dobcheffer, vraiment en termes de conclusion.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe aussi à Washington et les récentes lois qui ont été passées au Sénat.
Vous parlez de l'amendement du début de semaine.
Oui, hein. Même j'en citerai trois, ouais. Parce que là on voit le Congrès américain rejouer son rôle sur les questions de politique étrangère. Et donc on va voir aussi un président Trump de plus en plus contraint, de plus en plus limité dans ce qu'il peut faire. La première chose, c'est son idée de potentiellement se retirer de l'OTAN. Je n'y crois pas, mais bon, c'est quelque chose qu'il a quand même avancé. Là, les Républicains ont massivement voté contre cette idée. En tout cas, s'il y aurait un retrait américain de l'OTAN, il faudrait que ça passe par une approbation du Congrès. Hier, le Sénat, majoritairement républicain encore, critique et vote contre le retrait précipité de la Syrie et de l'Afghanistan. Et enfin, il y a encore quelques semaines, le Sénat, majoritairement républicain, donc du camp du président Trump, veut mettre fin à l'implication et au soutien qu'apportent les États-Unis à la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans la guerre contre le Yémen.
Donc Trump perd un peu de sa marge de manœuvre.
Absolument.
Merci beaucoup à tous nos invités, Alexandra Dehoub-Scheffer, Ziad Majed. Vous concernant, je rappellerai, Dans la tête de Bachar al-Assad, c'était paru aux éditions Actes Sud. Voilà, merci beaucoup. Marc Semo, merci également.
Merci.
Notre partenaire du Monde le vendredi. On se retrouve la semaine prochaine,
Marc Semo.
Avec grand plaisir. 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Justement, vous nous emmenez en Chine, on en parlait à l'instant. Xi Jinping n'est pas seulement le dirigeant politique de la Chine, c'est aussi un penseur.
Oui, et c'est même le premier dirigeant communiste chinois depuis Mao Tse-tung à avoir vu sa pensée promue objet d'étude. La doctrine adoptée par le 19e congrès du Parti communiste chinois en octobre 2017 s'intitule tout simplement « La pensée du socialisme de Xi Jinping avec des caractéristiques chinoises dans une nouvelle ère ». comme quoi tous les partis communistes n'ont pas rompu avec le culte de la personnalité. Mais si Xi bénéficie d'une autorité sans précédent dans son pays depuis Mao, sa pensée, elle, ne ressemble en rien à celle du fondateur du régime, si l'on en croit Steve Tsang, un universitaire britannique. Mao, écrit-il, trouvait le chaos exaltant. Il a poussé sa révolution culturelle jusqu'à lancer ses gardes rouges à l'assaut du parti qu'il avait lui-même bâti. Au contraire, Xi est un homme d'ordre. Mais sa pensée diffère aussi considérablement de l'autre grand modèle politique de la Chine contemporaine, Deng Xiaoping, le grand réformateur et modernisateur du pays. Celui-ci était un pragmatique qui encourageait les expérimentations et favorisait celles qui semblaient marcher le mieux. « Qu'importe qu'un chat soit noir ou gris, disait-il, ce qui importe, c'est qu'il attrape des souris. » Il souhaitait que la Chine s'ouvre sur l'Occident et lui emprunte ses idées, y compris, dans une certaine mesure, son libéralisme. Xi, lui, est tout sauf un pragmatiste ou un libéral. C'est un authentique idéologue et un communiste sincère. Pour lui, l'expérimentation politique, la société civile ou les droits de l'homme universels sont, écrit toujours Steve Tsang, des anathèmes. Il veut que le Parti communiste contrôle le pays de la manière la plus infaillible, à l'aide notamment de l'intelligence artificielle. Et il entend bien contrôler lui-même la tête du parti unique, à savoir son comité central. La lutte contre la corruption, qu'il a menée d'une main de fer aussitôt parvenu au pouvoir suprême, a pour but réel de lui en garantir la fidélité personnelle de chacun de ses membres. En fait, Xi Xi avait un prédécesseur, poursuit toujours Steve Tsang, ce serait l'ancien président et rival de Mao, Liu Shaoqi, un léniniste de tendance confucéenne. Mais cette remise en ordre autoritaire de la Chine n'est pas le but en soi de Xi, c'est un moyen au service de ses véritables objectifs qui sont d'ordre international. Deng Xiaoping professait, on s'en souvient, que la Chine devait cacher ses forces et attendre son heure. Et bien selon Xi Jinping, cette heure, elle est venue. Dans un article récent de Foreign Affairs, Kevin Rudd estimait que les Occidentaux s'étaient mépris sur les intentions des dirigeants chinois, car bien avant l'ascension au pouvoir de Xi Jinping, le leadership du Parti communiste avait estimé qu'un pouvoir autoritaire et centralisé était nécessaire pour permettre à la Chine de redevenir une grande puissance et que les fonctionnaires de l'État devait être soumis dorénavant à l'autorité du parti.
Et cette puissance, Brice, la Chine doit l'atteindre en premier lieu dans le domaine des technologies de pointe.
D'où la constitution de champions nationaux, couvés par le parti communiste afin de partir à la conquête des marchés mondiaux. Prenez Huawei. L'entreprise, créée par un modeste ingénieur en génie civil de l'armée populaire, Ren Zhengfei, a reçu de l'État chinois, je cite toujours Steve Tsang, davantage de soutien qu'aucune compagnie au temps moderne. Et d'après un expert cité par Les Échos d'hier, le décollage de Huawei à l'international s'est appuyé sur des lignes de crédit totalisant la somme faramineuse de 30 milliards de dollars entre 2005 et 2009, ouverte par la China Development Bank, une banque politique chargée de soutenir la stratégie nationale. Fin de citation. Ainsi s'explique qu'elle soit devenue, Huawei, le premier fabricant mondial d'équipements de réseaux télécoms et le numéro 2 mondial des smartphones. Huawei emploie aujourd'hui 180 000 personnes. Elle réalise un chiffre d'affaires de près de 100 milliards de dollars. Elle est en pointe, on le sait, dans le domaine de la 5G, cette technologie qui équipera l'Internet des objets demain. Depuis le rapport remis au Congrès des États-Unis en 2012 et donc sous la présidence d'Obama, les Occidentaux s'inquiètent des liens bien trop évidents entre cette compagnie et l'État chinois. Et ils soupçonnent celui-ci d'utiliser les produits et services de Huawei à des fins d'espionnage. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'arrestation au Canada à la demande des États-Unis de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei qui est aussi la fille de son fondateur. Plusieurs alliés, pays alliés des États-Unis, dont le Japon et l'Australie, ont déjà annoncé qu'ils refuseraient leur marché de la 5G à la méga compagnie chinoise. Mais que les Occidentaux ne se méprennent pas sur les intentions de Xi Jinping, conclut Steve Tsang, son intention n'est pas de déclencher une nouvelle guerre froide contre l'Occident, encore moins, et contrairement à Poutine, d'y exporter son modèle politique autoritaire, mais d'articuler deux objectifs. Maintenir l'ouverture de la Chine sur le monde, tout en évitant la contagion des idées libérales et démocratiques.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.